Vous écoutez, on lit pour vous.
Trucs et conseils pour les locataires et propriétaires. Un texte de Megan Foy, paru le 18 janvier 2025 dans la presse. La saison des renouvellements de baux s'annonce tendue, avec des augmentations salées de loyers en raison de l'inflation des dernières années. Locataires et propriétaires, quels sont vos droits et obligations? Conseil aux locataires. Mon propriétaire m'envoie un avis d'augmentation de loyer et de modification d'une autre condition du bail lors de son renouvellement. Est-ce que j'ai le droit de refuser la hausse si je la juge déraisonnable? Absolument. Vous avez un mois pour la refuser, sans quoi le bail sera renouvelé automatiquement, explique Maître Guy Audet, avocat spécialisé en droit locatif et immobilier. Pour ce faire, vous n'avez qu'à aviser votre propriétaire. Trois options doivent vous être offertes dans l'espace prévu par le nouveau texte qui doit être obligatoirement ajouté à l'avis de modification. Accepter, refuser et renouveler le bail. Ou refuser et quitter le logement. Vous avez aussi le droit de refuser toute modification si l'avis est envoyé au-delà des délais prescrits, soit entre 3 et 6 mois avant l'échéance d'un bail de 12 mois. J'ai refusé une augmentation de loyer. Qui doit faire des démarches pour introduire une cause en fixation de prix au tribunal administratif du logement, TAL? C'est la responsabilité du propriétaire. Le propriétaire, lui, va avoir un autre mois après votre refus pour déposer la demande de fixation au tribunal administratif du logement, précise Maître Audet. Toutefois, si le tribunal en vient à la conclusion que la hausse calculée par le propriétaire était adéquate et que celui-ci vous avait fait part des calculs et des documents pertinents lors de la négociation, le tribunal peut vous imposer de payer également les frais d'ouverture du dossier, de 90 $ quand le loyer mensuel excède 600 $. Je signe un nouveau bail. Comment connaître le prix que payait l'ancien locataire? À la signature d'un nouveau bail, la clause G vous permet de connaître le prix que payait l'ancien locataire. Il ne faut pas l'oublier, souligne Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, FRAPRU. Elle est obligatoire, mais elle est généralement trop souvent non remplie. D'après un sondage de l'organisme Vivre en ville, 81% des locataires ne connaissent pas cette clause, notamment car elle est souvent vide, même si le propriétaire a l'obligation de la remplir. Le cas échéant, ce dernier peut être condamné à verser des dommages-intérêts punitifs. Autrement, en tant que locataire, il vous est toujours possible de consulter le registre des loyers tenu par Vivre en ville pour voir si le précédent bail de votre logement y est enregistré. Conseil aux propriétaires. Je ne sais pas comment calculer la hausse du loyer. Comment faire? Il existe un formulaire de calcul en ligne qui vous est proposé par le tribunal administratif du logement, TAL. La grille de calcul pour les augmentations, qui vont prendre effet à compter du mois de juillet 2025, va être publiée au moment de l'annonce de la hausse suggérée par le TAL, explique Maître Audet. Vous pourrez donc y entrer vos dépenses et calculer l'augmentation suggérée. Cet indicateur, qui n'est pas obligatoire, peut vous aider à déterminer la hausse que vous présenterez à votre locataire dans l'avis de modification de son bail. Je veux envoyer un avis de modification du bail à mon locataire. Comment dois-je procéder? La période d'envoi d'un avis de renouvellement de bail commence 6 mois avant l'échéance et se termine 3 mois avant la fin du bail, précise Maître Audet. Autrement dit, pour un bail qui se renouvelle le 1er juillet, la période d'envoi est du 1er janvier au 31 mars. Après cette date, le locataire est en droit de refuser toute modification. Vous pouvez d'ailleurs rédiger vous-même votre avis. La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Corpic, en fournit un exemple à ses membres. il est important d'avoir une preuve de réception de l'avis. La transmission de l'avis doit se faire en main propre avec signature du locataire de l'accusé de réception ou encore par courrier recommandé notamment. L'envoi de l'avis par téléphone, par texto ou par courrier ou courriel ordinaire n'est pas valide. J'ai entendu que les choix du locataire à la réception de l'avis doivent être précisés. Est-ce vrai? Oui. L'avis de modification du bail doit inclure un nouveau texte obligatoire depuis le 26 décembre 2024. Le TAL demande d'inclure les trois options qui s'offrent au locataire à la réception de l'avis. Doivent être aussi inclus les droits et obligations de chacun en lien avec le document. Si vous ne l'incluez pas, l'avis de modification n'est pas valide. Bien que le propriétaire puisse formuler par lui-même ce texte, le tribunal administratif du logement en fournit un exemple. Mon locataire ne comprend pas pourquoi le prix de son loyer a augmenté. Quel est le meilleur conseil à suivre? C'est d'en discuter avec lui. Pour la CORPIC et l'Association des propriétaires du Québec, APQ, la solution passe par la conversation et par l'explication du calcul. Ce n'est pas un jeu de cachotterie parce que le locataire a une arme puissante. Il a juste à dire non. Donc, il y a un avantage pour le propriétaire à être transparent et à expliquer vraiment les enjeux, les factures, explique Martin Messier, président de l'APQ. Du moment que les deux parties sont en accord, toute hausse est légale. C'était « Trucs et conseils pour les locataires et propriétaires », un texte de Mégane Foy, paru le 18 janvier 2025 dans La Presse.
Le golf ou le golf du Mexique? Un texte éditorial de Boucard Diouf, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse. En ce début de règne de Donald Trump, permettez-moi de paraphraser ce proverbe turc qui voyait venir ce qui va se passer pendant les quatre prochaines années à Washington. Cette sagesse dit « Installer un clown dans un palais n'en fait pas un sultan, mais peut transformer le palais en cirque. » Alors, attachez votre tuque avec de la broche, le grand chapiteau s'installe à la Maison-Blanche. Du spectacle, il y en aura pour tout le monde. Pendant que le rideau se lève, une première déclaration de Trump m'interpelle. En effet, je me demande si le président américain ne croit pas que le golfe du Mexique est un 18 trous. Il faut peut-être lui rappeler que le golfe en question n'est pas un jeu. Donc, mieux vaut réfléchir avant d'y faire un autre trou. La dernière fois qu'on a essayé, souvenons-nous de ce qui s'est passé. Une terrible explosion a détruit la plateforme Deepwater Horizon de la société britannique BP le 20 avril 2010. Ce spectaculaire accident a démontré à l'Amérique que l'huile et l'eau ne se mélangent pas bien, même quand on adore brasser des affaires en chantant « Drill, baby, drill ». Plus sérieusement, de quelle Amérique est-ce qu'on parle dans ce projet de changement de nom du golfe? La question se pose, car les États-Unis ont décidé de s'approprier le nom du continent au complet pour désigner leur seul pays. J'imagine que c'est la même logique qui les a amenés à confisquer le mot « football » pour désigner un sport dans lequel les joueurs passent plus de temps à courir avec la balle dans les mains. Aujourd'hui, même quand on est un autochtone du Pérou ou du Mexique qui descend des grandes civilisations précolombiennes, on n'a pas le droit de se dire « américain » à cause de cette injuste appropriation lexicale. Dans un monde normal, les compatriotes de Trump devraient se dire des États-Uniens et laisser le reste du continent être aussi des Américains, un peu comme Boucar est à la fois fièrement sénégalais et africain. Si Donald Trump veut vraiment rétablir une forme de justice toponymique, il devrait plutôt changer le nom de l'Amérique. Ce nom qu'il chérit au point de vouloir remplacer le golfe du Mexique par le golfe de l'Amérique est une aberration de l'histoire. Le continent porte le nom d'Amerigo Vespucci, un navigateur originaire de Florence qui a bien connu Christophe Colomb, car les deux se sont croisés à la cour d'Isabelle de Castille et de Ferdinand II d'Aragon. C'était en 1491, alors que Colomb préparait son premier voyage financé par des argentiers d'Espagne. Permettez-moi de vous résumer cette petite page d'histoire joliment racontée par Stéphane Bern dans son bouquin intitulé « Les pourquoi de l'histoire ». Après trois voyages sans véritable trésor et cargaison d'épices dans les cales de ses navires, Christophe Colomb tombe en discrédit devant ses commanditaires et investisseurs. Pendant qu'on le pousse hors de la route des grands explorateurs, un de ses anciens équipiers, Alonso de Ojeda, reçoit du financement pour tenter sa chance. Il fait alors équipe avec Amerigo Vespucci dans une expédition mobilisant quatre navires qui doit mettre le cap sur les Indes orientales. Entre 1499 et 1500, les explorateurs entrent dans l'embouchure de l'Amazone. Charmés par les petites maisons sur pilotis des Autochtones, ils baptisent la place Veneziola, la petite Venise, ce qui a donné son nom au Venezuela d'aujourd'hui. Les quelques perles précieuses qu'il rapportera donnent à Amerigo le goût de repartir. Une deuxième expédition pendant laquelle il atteindra le Brésil en 1501. De retour de ce voyage, le Florentin relate ses aventures dans de nombreuses correspondances envoyées à la famille Médicis avec laquelle il a des liens étroits. Dans un de ses écrits, il raconte des anecdotes sur la sexualité de peuples autochtones rencontrés au Brésil. Ce récit intitulé « Mundus Novus » pour « Nouveau monde » dit Bern, sera traduit en plusieurs langues et connaîtra un grand succès en Europe, probablement à cause des histoires grivoises qu'il y relate. Si bien qu'en 1505, lorsque Christophe Colomb passe l'arme à gauche, Amerigo s'impose dans l'imaginaire de ses nombreux lecteurs comme le découvreur de l'Amérique. Un an après la mort de Colomb, en 1507, la lettre d'Amerigo se retrouve au cénacle que le duc de Lorraine, René II, organise à Saint-Dié, dans les Vosges. Une rencontre qui a pour mission de mettre à jour les atlas afin d'y faire figurer le Nouveau Monde. Voilà donc, dit l'auteur, comment le nom d'Amerigo Vespucci a été donné au continent devenu l'Amérique. Martin Waldseemüller, moine responsable de la cartographie, publiera pour la première fois, le 25 avril 1507, un planisphère où figure le nom America en hommage à Amerigo Vespucci. Comme quoi, lorsqu'on a fait vœu de chasteté et qu'on se retrouve avec des révélations croustillantes sur les mœurs sexuelles d'une tribu lointaine entre les mains, il est bien difficile de garder toute sa concentration. Quand on a réalisé la bévue, on a essayé de la corriger et de redonner le nom du continent à Colomb, mais il était trop tard. Le nouveau planisphère avait déjà été distribué en milliers d'exemplaires. C'est ainsi donc que le continent américain a hérité d'une erreur d'appellation. Donc, si Donald Trump ajoute encore le nom d'Amerigo Vespucci à la dénomination du golfe du Mexique, comme il sait bien le faire, il perpétue cette vieille fake news. Si le président américain veut jouer au justicier de la toponymie, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et redonner le nom du continent à ceux qu'il mérite vraiment? Sans vouloir minimiser l'exploit et la signification de son voyage de 1492, qui, dans le monde occidental, marque la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes, je ne pense pas ici à Christophe Colomb. Loin de moi également l'idée de ramener les thèses très crédibles qui tendent à attester que les ancêtres des Polynésiens actuels auraient visité l'Amérique 1000 ans avant Christophe Colomb. Christophe Colomb est arrivé bien plus par hasard en Amérique qu'il ne l'a découverte. Partout où il est passé pendant ses voyages, il a été accueilli par des humains qui y sont arrivés des milliers d'années avant lui. Que représentaient alors ces Autochtones dans cette histoire devenue une vérité sacrée et immuable? Ces peuples vivaient-ils là simplement en attendant que Christophe Colomb les découvre? Étaient-ils juste des figurants de l'histoire? Je sais qu'il est trop tard pour changer le nom du continent, mais si l'on veut modifier celui du golfe du Mexique, pourquoi ne pas le rebaptiser le golfe des Aztèques? C'était le golfe ou le golfe du Mexique? Un texte éditorial de Boucard Diouf, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse.
Paroles d'hommes qui soutiennent le féminisme, un texte de Camille Verners, paru le 5 novembre 2024 dans Axel. Peut-on être un homme féministe? Ce que nous avons rencontré pour cet article estime que la question n'a pas lieu d'être, tant leur engagement anti-patriarcal qui prend différentes formes est une évidence. Pour autant, ces prises de position salutaires reposent sur un fragile équilibre. Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et parties. Si cette phrase a été popularisée par l'autrice féministe Simone de Beauvoir, qui la cite au début de son ouvrage « Le deuxième sexe », on la doit à un homme du XVIIe siècle, le philosophe français François Poulain de la Barre, considéré comme l'un des premiers défenseurs du féminisme. En 1673, il publie de manière anonyme « De l'égalité des deux sexes », discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés, dans lequel il dénonce les inégalités entre les femmes et les hommes qui n'ont rien de naturel. Il y critique aussi les multiples privilèges de la masculinité. Toutes les lois semblent n'avoir été faites que pour maintenir les hommes dans la possession où ils sont. Des hommes pro-féministes à toutes les époques. Cette prise de position, radicale pour l'époque, s'écartait donc déjà du discours dominant, mais n'étonne pas le politologue canadien Francis Dupuis-Derry, qui étudie l'antiféminisme avec la sociologue Mélissa Blais et qui a publié « Les hommes et le féminisme ». Faux amis, poseurs ou alliés. Il y a eu des hommes pro-féministes à toutes les époques, sur tous les continents, et pas seulement au sein des classes éduquées de la société. En ce moment, en Afghanistan, des hommes sont en prison parce qu'ils luttent pour l'éducation des femmes et des filles, explique-t-il à Axel. À partir du XVe siècle, des hommes vont même essayer de prouver la supériorité des femmes. Le professeur Marc Angenot les appelle « les champions des femmes » dans un de ses livres. Ce qui change avec François Poulain de la Barre, c'est qu'il utilise des arguments sociologiques, et non pas religieux ou moraux, comme c'était souvent le cas à cette période, en lien avec la Vierge Marie, par exemple. Selon Francis Dupuis-Derry, des hommes alliés ont accompagné et soutenu le mouvement féministe. Dès le 19e siècle, certains hommes, principalement des bourgeois libéraux, financent les associations de femmes, les journaux qui s'intéressent à ces questions, les meetings politiques, etc. Ce sont souvent des pères ou des frères de féministes. Ils ont plus d'argent que les femmes. Dans le même temps, les féministes sont bien conscientes des risques et qu'il ne faut pas que les hommes atteignent des places de décision, car ils peuvent alors plaider pour des prises de position plus modérées ou se mettre à distribuer les bons points, à décider quels sont les bons combats et les bonnes féministes, voire expliquer que les féministes qui critiquent les hommes font fausse route. Face aux hommes pro-féministes, les féministes ont d'ailleurs adopté différentes attitudes. Certaines estiment, par exemple, que les hommes sont plus facilement écoutés par d'autres hommes, qu'il existe des endroits où les hommes se retrouvent en non-mixité et qu'il est important que des hommes pro-féministes y soient également, souligne Francis Dupuis-Derry. D'autres pensent que les hommes parlent à la place des principales concernées et que chaque tribune accordée à un homme à ce sujet est une tribune retirée à une femme. Et aujourd'hui? Des siècles après les textes de François Poulain de la Barre, certains hommes prennent toujours des positions anti-patriarcales. C'est le cas de l'auteur français Thomas Piet, qui utilise les réseaux sociaux pour dénoncer les discours sexistes encore bien ancrés. Je suis en questionnement permanent par rapport à ma place, parce que j'utilise mon privilège masculin. Je suis plus écoutée et moins attaquée que les femmes féministes qui, en plus, disent les choses mieux que moi, explique-t-il. C'est une injustice. J'en parle beaucoup avec mes amies féministes pour essayer d'être le plus juste possible. Par exemple, je ne gagne pas d'argent avec ces contenus. Si je devais un jour faire des conférences ou des formations, je demanderais d'abord si des femmes ont eu l'occasion d'être invitées avant moi. Ces prises de position résultent d'un long chemin. Je n'ai pas vécu un seul déclic. J'ai beaucoup écouté mon amoureuse, ce qu'elle a vécu comme violence, ce qu'elle ressent en présence d'hommes. Cela m'a révoltée. Je me suis plongée dans des podcasts féministes, j'ai lu beaucoup de livres. Je ne comprends pas comment on peut rester de marbre face à toutes ces informations disponibles. Comment est-il possible de ne pas remettre en question notre manière d'être des hommes, s'interroge-t-il. Un cheminement et un questionnement que partage Pierre-Guillaume Prigent, docteur en sociologie. Pour sa thèse, il a travaillé sur les stratégies des pères violents lors des séparations. Il a également mené une étude avec la chercheuse Gwenola Sueur sur l'utilisation de l'aliénation parentale contre les femmes. J'ai été marquée par l'association Mères en lutte, cofondée à Lyon par le sociologue Léo Thiers Vidal, qui lui-même s'est beaucoup intéressé à la domination masculine et à la conscience que les hommes en ont. Cette association venait en aide aux mères qui accusaient les pères de leurs enfants d'inceste et qui subissaient un violent retour de bâton. Traiter ces questions est devenu une nécessité pour moi. Les recherches de Pierre-Guillaume Prigent l'amènent à rencontrer des victimes de violences. Je suis chercheur universitaire, donc ma place est bien définie. La première chose que j'ai apprise à faire, c'est me distancier du réflexe qui consiste à mettre en doute la parole des femmes. Il faut sortir des stratégies d'occultation et de minimisation des violences masculines, telles que définies par la professeure de psychologie sociale Patrizia Romito. Rappeler que des femmes ont travaillé avant nous sur ces sujets est aussi important pour moi, précise-t-il. Il se dit cependant inquiet face à l'instrumentalisation d'un discours féministe de façade par des agresseurs. Et je m'interroge, car plus les années passent, plus mes privilèges et mon pouvoir symbolique en tant qu'homme augmentent dans la société. Je constate à quel point il serait facile d'en abuser. Il faut garder cette attention constante et cette éthique lorsqu'on est un homme pro-féministe. Faire société ensemble. Est-ce que la place des hommes se trouve au sein du milieu féministe? Oui, répond sans détour Francis Dupuis-Déry, au moins pour s'informer. Si seuls les Babyloniens et Babyloniennes se rendaient aux expositions sur l'Empire babylonien, il n'y aurait pas grand monde. Sans le féminisme, les hommes ne se comprendraient qu'à moitié. Rachel Eukendijk n'en pense pas moins. Avec Odile Devaux et Leïla Ferry, interviewées dans notre podcast « L'heure des éclaireuses », à écouter sur notre site et sur les plateformes, elle a cofondé La Bonne Poire, une initiative antipatriarcale créée en 2021 à Bruxelles qui s'adresse aux hommes. En tant que féministes, nous avions l'impression d'être lancés dans un train à grande vitesse et que les hommes, eux, restaient sur le quai. Nous étions misandres, fatigués de nous battre et plutôt désespérés. Cela nous a posé question. Quelle société étions-nous en train de construire? Allions-nous encore réussir à faire société ensemble? Explique-t-elle. Différents types d'activités sont organisés, dont des moments de rencontres et de discussions mensuelles. Nous faisons le pari que le féminisme peut transformer les dominants comme il nous a transformés. Nos activités se font en mixité parce que nous croyons que, quand il s'agit d'approcher ce que les systèmes de domination font aux hommes, il est précieux de pouvoir prendre en compte une multiplicité de perspectives. On souhaite convier les hommes à avoir ces conversations inconfortables, qu'ils apprennent aussi à s'interpeller les uns les autres, poursuit-elle. La masculinité, un concept problématique en soi, jusqu'à arriver à une masculinité positive. La masculinité, comme la féminité, est une construction sociale qui exprime une hiérarchie entre les femmes et les hommes, et entre les hommes entre eux. Je n'ai pas beaucoup de choses positives à dire sur la masculinité. Je ne pense pas qu'il existe de masculinité saine. Toute revendication d'une masculinité est problématique, selon moi, précise Pierre-Guillaume Prigent. Depuis des milliers d'années, on dénonce la crise de la masculinité qui va entraîner la fin du monde. On a peur que la définition de la masculinité se transforme. Cela montre qu'elle est liée à un pouvoir qu'on veut conserver, observe Thomas Piet. L'expression « masculinité toxique » voudrait dire qu'il existe d'autres types de masculinité, précise Francis Dupuy-Déry. Je ne le pense pas, et je crois qu'il ne faut plus utiliser ce concept, car en cherchant ce qui constitue la masculinité, on continue à séparer les hommes des femmes. Comme François Poulain de la Barre, je pense que nous avons les mêmes capacités. En Belgique, il n'existe pas de chiffres sur la proportion d'hommes prêts à partager ces réflexions. Une enquête de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a néanmoins montré que 62% des hommes belges étaient favorables au mouvement #MeToo ou se sentaient responsabilisés par ce mouvement. C'était « Paroles d'hommes qui soutiennent le féminisme », un texte de Camille Vernaers, paru le 5 novembre 2024 dans Axel.